Bonjour, ici Marc, bienvenue au 70e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse. Dans mon expérience, les gens qui travaillent pour le gouvernement ne s'aperçoivent pas qu'ils sont engagés dans une mafia géante, car la violence à laquelle ils participent ne leur est généralement pas visible dans leur travail quotidien. Sinon, ils ne feraient pas ça, il me semble, en tout cas presque tous. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure que ces informations se répandent, ils seront de plus en plus nombreux à reconsidérer les choses et peut-être choisir une activité plus en accord avec leurs valeurs. 65 000 anglophones sont abonnés à la chaîne YouTube de Lark & Rose, ce qui montre que ça intéresse beaucoup de monde. Avec cette traduction pour francophones, ce nombre va pouvoir augmenter. J'espère que, comme pour moi, ça vous donne espoir qu'on peut aller vers une société plus juste et où la vie est plus belle. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Ce que signifie porter l'uniforme. Ceux qui obéissent aux ordres d'une supposée autorité font généralement tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire savoir clairement. Lorsqu'un soldat revêt sa tenue militaire, marche en formation ou monte dans un véhicule militaire, lorsqu'un policier met son uniforme et monte dans la voiture portant l'inscription « police », lorsqu'un agent gouvernemental en civil, qu'il s'agisse du FBI, de l'IRS, des US Marshals ou de toute autre agence, montre son « insigne » ou annonce son titre « officiel », il fait une déclaration très spécifique qui peut être résumée comme suit. Je n'agis pas en tant qu'être humain pensant, responsable et indépendant, et je ne dois pas être traité comme tel. Je ne suis pas personnellement responsable de mes actes parce que je n'agis pas à partir de mon libre arbitre ou de mon propre jugement sur le bien et le mal. J'agis plutôt comme l'outil de quelque chose de surhumain, quelque chose qui a le droit de vous gouverner et de vous contrôler. En tant que tel, je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. J'ai des droits que vous n'avez pas. Vous devez faire ce que je dis, vous soumettre à mes ordres et me traiter comme votre supérieur, car je ne suis pas un simple être humain. Je me suis élevé au-dessus de cela. Grâce à mon obéissance inconditionnelle et à ma loyauté envers mes maîtres, je suis devenu un élément de l'entité surhumaine appelée autorité. Par conséquent, les règles de la moralité humaine ne s'appliquent pas à moi et mes actions ne doivent pas être jugées selon les normes habituelles du comportement humain. Toutes les personnes chargées de faire respecter la loi dans le monde ont cette croyance bizarre, mystique et sectaire. Il est terriblement dangereux pour quiconque de s'imaginer qu'il est exempté des règles fondamentales du bien et du mal, et pourtant c'est exactement ce qu'imaginent tous les agents du gouvernement. Malgré le fait que les soldats et les forces de l'ordre arborent généralement leur uniforme officiel avec une grande fierté, ce qu'ils font en réalité, c'est afficher publiquement le fait qu'ils sont en plein délire, qu'ils ont une vision complètement déformée et démente de la réalité, et qu'ils ont trahi ce qui fait d'eux des êtres humains, leur libre arbitre et la responsabilité personnelle qui l'accompagne. Toute personne qui prétend agir au nom de l'autorité démontre qu'elle a accepté un mensonge totalement ridicule, que sa position, son insigne, sa fonction changent radicalement les comportements qui sont moraux et ceux qui sont immoraux. Cette idée est manifestement insensée, mais elle est rarement reconnue comme telle, parce que même les victimes des personnes chargées de l'appliquer partagent cette illusion. Nobles motivations, mauvaises actions. Il est important de souligner à nouveau que, parmi ceux qui deviennent des forces de l'ordre et des soldats, la plupart le font par désir de lutter pour la justice. Néanmoins, en raison de leur croyance en l'autorité, leurs nobles intentions finissent souvent par être utilisées pour nuire aux innocents et protéger les coupables. Parce qu'un policier est censé faire respecter la loi et qu'un soldat est censé obéir aux ordres, leurs propres valeurs et intentions sont éclipsées par les objectifs de ceux qui donnent les ordres. Malgré la propagande militaire qui encourage les jeunes hommes et femmes à s'engager pour défendre la vérité et la justice, le véritable travail d'un soldat consiste à tuer tous ceux que ses maîtres lui ordonnent de tuer. C'est aussi simple que cela. Combien d'Américains choisiraient de leur propre chef de se rendre dans des pays étrangers et de tuer de parfaits inconnus? Très peu. Combien d'Américains, s'ils se trouvaient dans un pays étranger, se sentiraient justifiés d'aller de porte en porte, d'interroger des inconnus sous la menace d'une arme, d'envahir et de fouiller leur maison, parce qu'ils pensent que des gens vraiment mauvais pourraient se trouver dans la région? Très peu. Il s'agit là d'actions que le sens de la moralité de presque tout un chacun qualifierait de mauvaises. Mais lorsque quelqu'un s'engage volontairement dans une armée autoritaire, il se prive intentionnellement de son propre jugement et de sa conscience pour simplement faire ce qu'on lui dit de faire. Bien que les soldats utilisent parfois une force légitime, par exemple pour combattre des agresseurs et des envahisseurs, ils agissent aussi régulièrement comme des agresseurs et des envahisseurs eux-mêmes. Il serait impossible pour une armée gouvernementale de fonctionner autrement. Imaginez une armée allant de porte à porte, demandant poliment à chaque propriétaire la permission de traverser son terrain. Le fait de qualifier la situation de « guerre » amène les partisans du gouvernement à penser que les normes habituelles du comportement humain ne s'appliquent pas. Sous prétexte de nécessité, les soldats violent les frontières, volent, intimident, menacent, agressent, interrogent, torturent et assassinent. Et ils le font même à l'encontre de personnes qu'ils considèrent comme leurs alliés. L'invasion militaire et l'occupation de l'Irak par les mercenaires du gouvernement américain, prétendument destinés à défendre le peuple irakien, était un exemple d'agression et de coercition à grande échelle, et donc immorale, même si elles ont permis de déplacer un régime coupable d'un niveau d'intimidation et de meurtre encore pire, le régime de Saddam Hussein. Pourtant, la méchanceté supposée de l'ennemi est souvent invoquée pour justifier la coercition autoritaire. En réalité, aujourd'hui comme dans l'histoire, la violence à grande échelle contre des innocents a toujours été exercée au nom de la « lutte pour la liberté » ou de la « lutte contre l'injustice ». Même lorsque les nazis ont envahi la Pologne, ils ont d'abord mis en scène une série de coups montés, faux événements et opérations de propagande collectivement connues sous le nom d'opération Himmler, afin de pouvoir prétendre que l'invasion était un acte d'autodéfense justifiable. La vérité est que, même lorsque le mal d'un régime ennemi est facile à voir, ce qui fait que le combat global semble juste pour une partie, la violence commise par les armées autoritaires n'est jamais dirigée uniquement contre les agresseurs réels du côté opposé. La structure et la méthodologie des armées hiérarchiques font que les innocents sont toujours victimes d'une manière ou d'une autre, et pas seulement par accident, mais à dessein. La mentalité de meute qui fait partie intégrante du patriotisme rend cette situation inévitable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines considéraient les Boches et les Japs comme l'ennemi, plutôt que de considérer l'ennemi comme les individus qui commettaient effectivement des actes d'agression contre des innocents, un concept qui exigerait que chaque soldat utilise constamment sa propre perception individuelle et son jugement moral pour évaluer chaque situation à laquelle il était confronté, ce qui est incompatible avec une hiérarchie autoritaire. Bien sûr, parmi les personnes qui correspondent à la définition des Boches, les Allemands, ou des Japs, les Japonais, beaucoup n'ont joué aucun rôle dans le conflit, à part le fait de le financer en payant des impôts, comme nous le verrons plus loin. Mais des deux côtés, dans chaque guerre, les armées gouvernementales et la propagande qu'elles utilisent ciblent et diabolisent toujours une catégorie générale de personnes plutôt que les individus qui ont réellement initié la violence. Il en résulte que d'immenses groupes démographiques finissent par recevoir l'ordre de se soumettre ou de s'exterminer les uns les autres, ce qui fait qu'aucun camp n'est jamais le bon dans une guerre entre nations, puisque les deux armées recourent toujours à la violence contre des innocents ainsi que contre d'autres soldats. L'un des exemples les plus odieux est sans doute le largage de bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima, qui constituent de loin les deux pires actes de terrorisme et d'assassinat de masse de l'histoire. Ensemble, ils ont causé la mort d'environ 200 000 civils, soit environ 70 fois plus que les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. L'objectif avoué était d'infliger la peur, la douleur et la mort à la population d'un pays entier, afin de contraindre la classe dirigeante de ce pays à se plier à la volonté d'une autre classe dirigeante. Ironiquement, cela correspond parfaitement à la définition que le gouvernement des États-Unis donne du terrorisme. Sauf que cette définition exempte commodément les actes qui sont légaux et ou commis par des gouvernements. Si des membres d'un gouvernement préconisent et mènent des activités violentes destinées à intimider ou contraindre une population civile, ou à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition, ces activités sont considérées comme légitimes et justes. Si quelqu'un d'autre fait exactement la même chose, il s'agit de terrorisme. Voir la section 23-31 du titre 18 du Code des États-Unis. Notons au passage que l'existence des armes nucléaires est entièrement due à la croyance en l'autorité. Contrairement à de nombreuses armes, il est impossible de les utiliser à des fins purement défensives. La seule raison pour laquelle la bombe nucléaire a été inventée et fabriquée est l'idée autoritaire, nationaliste, de la mentalité de meute, selon laquelle il est possible et juste d'être en guerre contre un pays entier, et que par conséquent, l'extermination aveugle de milliers de personnes en une seule fois peut être justifiée. Le fait d'être membre d'une armée gouvernementale implique que l'on contribue à des actes anti-humains, même si ce n'est qu'indirectement, quelles que soient les nobles motivations qui ont poussé l'individu à s'engager dans les forces armées. La raison en est simple, agir sur la base de sa propre perception et de son propre jugement, et respecter sa propre conscience et son propre sens du bien et du mal, est totalement incompatible avec le fait d'être membre d'une armée gouvernementale, quelle qu'elle soit. Malheureusement, le résultat est que les deux camps de chaque guerre sont dans l'erreur, en ce sens qu'ils initient tous deux la violence contre des innocents. En même temps, les deux camps de chaque guerre ont également raison, dans la mesure où ils condamnent l'autre camp pour avoir commis des actes de violence contre des innocents. En résumé, tant qu'il y aura des soldats prêts à se soumettre à une prétendue autorité, et même à commettre des meurtres lorsqu'elle le leur demande, une paix durable sera impossible. Ceux qui se battent pour un gouvernement, quel qu'il soit, même s'ils croient se battre pour leur pays, ne pourront jamais parvenir à la liberté et à la justice, parce qu'une classe dirigeante, par nature, ne veut jamais la liberté et la justice, même pour ses propres sujets, sinon elle cesserait d'exister. Aussi nobles que soient leurs motivations et aussi courageuses que soient leurs actions, en fin de compte, la seule chose que les soldats du gouvernement puissent jamais obtenir, c'est la soumission et la domination. Ironiquement, probablement dans le but de dissimuler la nature intrinsèquement mauvaise de toute armée gouvernementale et de distinguer ses propres mercenaires des mercenaires d'autres régimes tyranniques, l'armée américaine prétend que les soldats américains ont le droit et le devoir de désobéir à tout ordre qu'ils jugent illégal ou immoral. Cependant, non seulement tout soldat qui le fait est susceptible d'être traduit en cour martiale, mais un tel principe, qui serait en soi tout à fait approprié, va directement à l'encontre du concept même d'autorité et des méthodes spécifiques utilisées pour former les soldats à devenir des outils obéissants et irréfléchis du régime qu'ils servent. Dans un contexte de combat, presque tout ce que chaque armée gouvernementale fait constitue du terrorisme agressif, et presque tous les ordres qu'un soldat reçoit sont des ordres immoraux, qu'il s'agisse d'empiéter sur la propriété d'autrui, de faire sauter un pont, de bloquer une route, de désarmer des civils, de détenir et d'interroger des personnes sans justification, ou de tuer de parfaits inconnus simplement sur l'ordre d'une supposée autorité. En fait, même lorsque les règles d'engagement prévoient de ne tirer que si l'on nous tire dessus, cela reste souvent injustifié. Lorsque l'on est l'agresseur, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une autorité, la cible de cette agression a le droit d'utiliser toute la force nécessaire pour arrêter l'agresseur. En d'autres termes, dans de nombreuses situations, tirer sur des soldats, y compris des soldats américains, est intrinsèquement justifié. Tuer quelqu'un qui se défend contre des agresseurs est un meurtre, même si les agresseurs sont des soldats américains. Et presque tous les soldats commettent régulièrement des actes d'agression immoraux, croyant que les ordres de l'autorité les autorisent à le faire. Si un soldat prenait au sérieux l'idée qu'il a le devoir de désobéir à un ordre immoral, la première chose qu'ils feraient serait de quitter l'armée. Ceux qui agissent en tant que mercenaires pour le gouvernement même s'ils le font avec les meilleures intentions, feront toujours partie d'une machine qui commet des agressions aussi souvent, voire plus souvent, qu'elle ne défend les innocents. Cela étant, presque chaque soldat de combat fait des choses qui justifieraient l'utilisation de la violence défensive à son encontre. Cependant, comme l'ont toujours fait les envahisseurs conquérants, les commandants militaires américains qualifient de « combattants ennemis », d'insurgés ou de terroristes, quiconque s'oppose à leurs actes d'agression. Lorsque l'agression est commise au nom de l'autorité, nombreux sont ceux qui considèrent que tout acte d'autodéfense contre cette agression est un péché. Bien que les autoritaires américains puissent être scandalisés par cette suggestion, la vérité est que beaucoup de milliers de personnes dans le monde ont eu de bonnes raisons de tirer sur des soldats américains. Lorsqu'une personne qui n'a ni blessé ni menacé personne se trouve dans sa propre maison, s'occupant de ses affaires et que des voyous lourdement armés enfoncent sa porte, pointent des mitraillettes sur lui et sa famille, les menaçant et leur donnant des ordres, le propriétaire a le droit absolu de se protéger et de protéger sa famille par tous les moyens nécessaires, y compris en tuant les intrus armés. L'Américain moyen, s'il était victime d'une telle agression par des mercenaires étrangers, se sentirait parfaitement justifié d'utiliser toute la violence nécessaire pour repousser les attaquants, mais si ce sont ses concitoyens américains qui commettent de telles agressions dans un pays étranger, ce même Américain, ayant été imprégné du culte de l'autorité et de la mentalité de meute, soutiendra les troupes et applaudira lorsque des soldats américains assassineront un propriétaire qui tente de résister par la force à une telle agression et à une telle brutalité. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », la suite du chapitre « Ce que signifie porter l'uniforme ».